Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour, vous écoutez Transistor et c'est le 54e numéro d'En Spectateur. Aujourd'hui, nous vous proposons une interview à la rencontre d'une nouvelle troupe et pour cela, me voici en compagnie d'Antoine. Bonjour Antoine.
Bonjour Marie. Alors aujourd'hui, nous recevons le collectif Il avec d'abord Marion Godon et le reste de la troupe qui arrivera en studio un peu plus tard. Bonjour Marion.
Bonjour.
Alors, tu viens nous présenter Le Musée du Mois, une pièce de théâtre qui sera jouée du mercredi 2 au vendredi 4 mars à 20h et ce sera en Théâtre Cantor, jusque là je dis pas de bêtises. Ce sera pour la première partie de cette émission et ensuite je tendrai mon micro à Anna qui nous parlera de Ce que portent les femmes, c'est à suivre tout à l'heure dans l'émission. Mais pour commencer donc, Le Musée du Mois. Alors cette pièce, si j'ai bien compris, c'est l'histoire de trois personnages, trois vidéastes sur internet, M-A-L. Tout ça a l'air assez mystérieux et on va sans doute reparler un peu de ces personnages un petit peu plus tard dans l'interview. Mais on va peut-être te laisser nous en dire davantage. Qu'est-ce que vous nous jouez cette semaine exactement ?
Alors, nous, on a voulu parler de notre jeunesse, notre génération, et de s'interroger sur cette fameuse place dont on souffre beaucoup. Souffrir, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, savoir comment nous, jeunesse d'aujourd'hui, on s'empare de ce monde et on prend notre place. Et du coup, ces trois personnages, M, A et L, mâles, ont décidé de prendre la place avec leur image à travers les réseaux sociaux. Et c'est comme ça qu'ils existent à travers ce musée qu'on a appelé très narcissiquement le Musée du Moi.
D'accord. Alors, ces personnages, qu'est-ce que tu peux nous en dire au-delà de leur prénom
Ces trois jeunes qui sont absolument ancrés dans leur génération, leur jeunesse, qui vivent avec leur temps, avec les réseaux sociaux. Ils sont très mode, ils sont fascinants, ils sont très inquiétants par leur perfection, disons. Toute leur vie est mise en scène à travers des vidéos, des photos. Les internautes, donc le public, donc vous, n'avez accès à ces gens-là que par l'image qu'ils veulent donner d'eux-mêmes. Et en fait, grâce à cette journée portes ouvertes du Musée du Mois, donc pour laquelle nous ouvrons le musée et qu'on vous reçoit,
ouais, d'accord.
Vous allez pouvoir les découvrir en vrai et voir leur vraie personnalité.
D'accord.
Alors du coup, j'aimerais juste poser une question qui se concentre un peu plus sur le titre. Donc Le Musée du Mois, c'est un titre qui est à la fois accrocheur et énigmatique. Qu'est-ce qu'il est censé nous dire précisément sur votre pièce et éventuellement sur vos engagements théâtraux ?
Alors déjà, pour la petite anecdote, Le Musée du Mois, on n'a pas totalement inventé le terme. Je dois lui rendre quand même un petit peu hommage. C'est à mon beau-père qui a créé un compte Instagram. Donc il a 60 ans bientôt, il a créé un compte Instagram et il se prend en photo tous les jours. Il tague en fait cette photo avec un hashtag en disant le musée du mois. Et nous, ça nous a vraiment interrogé en fait. Et l'idée est partie de là, pourquoi cette démarche, pourquoi faire ça ? Et on va partir de là, ce musée du mois, c'est quand même très intriguant. Et quand même, un musée, on est là pour exposer des œuvres et on s'est dit, tiens, si on allait exposer des œuvres vivantes. Il faut savoir aussi que le spectacle commence dans le hall et où on a recréé un vrai musée. Nous, comédiens, venons à la rencontre des gens et
d'accord.
On les accueille comme
donc
ça. On a recréé
extra.
C'est ça.
Extra
on a travaillé avec deux photographes qui ont pris des photos et qui ont travaillé sur une scénographie de musée. Du coup, voilà, on a voulu aussi sortir des murs, voilà, et on casse un peu tout.
Mais vous avez l'air de jouer, enfin je sais pas, vous avez l'air de jouer vachement sur la métathéatralité en fait, non
j'ai ouais,
l'impression, c'est vraiment, même dans l'humour, dans l'idée
c'est
de
ça.
Dire, on vous ouvre les portes,
c'est ça.
Ce genre de choses.
En fait, on a voulu vraiment faire quelque chose qui nous ressemblait un peu, c'est peut-être un peu prétentieux, décalé, je sais pas, pas révolutionnaire, parce qu'on sait très bien qu'on révolutionnera rien, mais on a voulu s'emparer pour cette première création de quelque chose qui nous ressemblait. Et du coup, oui, on casse un peu tous les codes, on a le quatrième mur qui est complètement cassé, on est en rapport direct avec le public sans cesse, et on voudrait vraiment que le public ressorte en se disant « on est responsable de ces monstres ».
Ok, donc ouais, une manière d'interpeller le public. Ah, et du coup, en studio arrivent maintenant deux autres membres du collectif qui vont donc nous rejoindre pour cette interview. Je vous laisse vous installer. Alors donc, on a Lynn, bonjour Lynn.
Bonjour.
Et Adrien, bonjour.
Bonjour.
Alors, du coup, on va pouvoir reprendre un peu le fil et là où on avait laissé l'interview. Alors, du coup, de ce que j'en comprends, donc il y a un certain nombre de thèmes qui seront abordés dans cette pièce, comme j'imagine, du coup, le voyeurisme, l'exhibitionnisme, le côté un peu provocateur aussi. Comment vous vous positionnez par rapport à ces thématiques ? Est-ce que vous avez une visée de dénonciation, par exemple, ou est-ce que c'est pas du tout l'optique du spectacle ?
Eh ben, c'est pas tellement l'optique, parce que ce qui est drôle, c'est qu'on parle de ça, mais on est complètement, nous, ancrés là-dedans.
Aujourd'hui, on vit dans un monde
où les réseaux sociaux sont très présents. Je crois que vraiment ce qui nous a tapé dans l'œil au début, c'est vraiment cette autofiction qu'on crée soi-même, vraiment la mise en scène que chacun fait pour montrer la part de sa vie qu'on a envie d'exposer sur les réseaux.
Et bizarrement, on montre jamais ce qui est malheureux. C'est-à-dire qu'on va montrer qu'on a fait un jogging au parc de la Tête d'Or, on va montrer qu'on est allé manger dans ce restaurant-là, avec ces copains-là, et voilà. Et on crée en fait une espèce de vie sur une communauté spéciale choisie, entre guillemets, parce qu'on a des abonnés, on peut rendre son profil privé ou public. Et voilà, et nous, et je pense pas qu'on dénonce parce qu'on s'en sert nous-mêmes.
Et en fait, la réflexion, c'est pas tellement une dénonciation de ces blogueurs, de ces gens qui passent leur temps à tout montrer sans cesse. C'est plus une réflexion sur comment nous, jeunes d'aujourd'hui, on essaie tant bien que mal de trouver notre place. Il y en a qui ont décidé de la trouver comme ça, arrêtez de nous juger, arrêtez d'être tout le temps dans le jugement, on fait comme on peut en fait. On fait comme on peut, eux on fait ça, et on les voit plus victimes en tout cas. On a essayé de les rendre touchants, on espère qu'ils vous seront pas antipathiques parce qu'ils sont avant tout humains. Et c'est ce qu'on a voulu montrer, que d'accord, c'est eux, mais c'est nous, c'est vous.
Donc en un sens, tu viens de parler de la génération d'Internet, donc c'est une pièce qui parle de la génération Y.
Et d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais on a interviewé des jeunes dans notre recherche pour d'écriture. On a travaillé avec des jeunes de la MJC.
Confluence.
Voilà, et je sais pas, peut-être que...
Ouais, Adrien, si tu veux en parler.
Et non, c'était assez intéressant. En fait, je crois qu'on avait une fausse idée, en fait, de ces jeunes. Qui avait entre, on va dire, entre 12 et 15 ans.
C'était
à
assez
peu
jeune.
Près.
Ouais.
C'était assez jeune. Cette zone-là, en fait, n'utilise pas vraiment les réseaux sociaux comme nous. On a pu remarquer, par exemple, que Facebook, pour eux, c'est mort déjà. C'est fini.
D'accord.
C'est has-been. Alors, ouais.
C'est has-been,
voilà,
pour eux.
C'est has-been. Ouais. Alors que chez nous, c'est le réseau qu'on utilise le plus. Mais chez eux, c'est.
Snapchat, c'est surtout. Fini.
Et Instagram.
Ouais. Snapchat et Instagram, ouais. Ouais. Après, ils ne suivent pas quelqu'un de précis. Ils suivent vraiment plusieurs personnes, ils ont un petit fil d'actualité et c'est vraiment des gens proches d'eux. Et je pensais aussi que c'était une génération qui ne se protégeait pas, alors qu'en fait c'est tout l'inverse. Ils se protègent beaucoup plus que nous finalement.
Ouais.
Toutes les personnes qui leur demandent une amitié sur les réseaux, et ben en fait s'ils ne les connaissent pas, ils n'acceptent pas.
Alors Lynn, tout à l'heure, donc tu disais que voilà, sur les réseaux sociaux on a tendance à mettre en avant que la meilleure partie de nous-mêmes. Dans le spectacle, comment vous faites ça? Est-ce que vos personnages, donc tout à l'heure tu l'expliquais Marion, c'est des personnages troublants de perfection. Est-ce que l'idée sur scène, ce sera de mettre en scène effectivement leur perfection, un peu comme nous on fait sur les réseaux sociaux, ou est-ce qu'au contraire vous avez l'intention de montrer aussi toutes les coulisses dans lesquelles ça va pas toujours et dans lesquelles c'est pas toujours rose?
C'est ça en fait tout le propos du spectacle, c'est justement se dire qu'on part sur une perfection virtuelle. Donc tout le monde va nous voir arriver bien habillé, etc.
Dans ce musée.
Le show commence comme ça, et à un moment, par un espace scénique qu'on a créé, ça va permettre aux gens de voir justement l'arrière-boutique, entre
l'envers
guillemets,
décor,
l'envers du
ouais.
décor, et les coulisses de ces personnes qui finalement sont très seules. C'est ça aussi qu'on avait envie de montrer. Voilà, elles ont une communauté de plusieurs millions de personnes, elles ont des likes et des partages tous les jours, mais finalement elles sont comme nous tous, tout seules, dans leur chambre, en train de faire une vidéo.
D'accord.
Et c'est ça qui est quand même triste, c'est de se rendre compte qu'à la fin, ils sont quand même seuls.
C'est rare que le théâtre prenne en charge la question d'Internet, souvent on voit plutôt ça au cinéma. Du coup, comment traitez-vous le web et le virtuel dans la pièce?
Justement, on s'est beaucoup, beaucoup interrogé là-dessus. On a pris le problème dans l'autre sens, où on s'est dit, qui regarde Internet? Finalement, on est au théâtre, on est dans la démonstration de quelque chose et on montre. Donc, on va plus s'intéresser aux gens qui nous regardent, c'est-à-dire au public qui est là, le public qui est à la fois internaute, mais qui est aussi spectateur. Et du coup, on est sans cesse en train de parler de la représentation que nous sommes en train de faire, mais aussi de ce qui se passe sur Internet avec les internautes et ceux qui montrent quelque chose tout le temps, sans cesse. Du coup, on n'a pas voulu chercher à recréer un écran, faire des vidéos, des trucs. Non, on est vraiment dans l'instant présent.
Et c'est aussi ça, notre idée scénique, c'est de se dire à des moments... On vous montre tout, nos intimes, et vous n'êtes plus vraiment là.
Vous n'êtes pas censé voir ça, mais on vous le montre en tant qu'acteur.
Voilà.
D'accord.
C'est-à-dire
qu'on joue sur une double dimension. On joue en tant que personnage, vous ne voyez rien, Mais nous, en tant que comédiens, on leur montre justement ce que les personnages vivent.
On s'est inspiré de La Mouette d'Ostermeyer parce qu'on a trouvé justement, avec les micros, avec une scène dans la scène, qu'on pouvait retrouver justement ce parallèle avec Internet. Mais on n'a pas voulu justement utiliser la vidéo, des trucs, surcharger le plateau, on le sait en fait.
Mais c'est vrai qu'à un moment, on s'est posé la question de se dire, est-ce qu'on crée pour le coup vraiment une page Facebook, un Instagram pour le jour du spectacle en fait.
Et on voulait même prendre les numéros des gens à l'entrée et qu'ils puissent envoyer des SMS.
Un numéro spécial.
Voilà, qui soit diffusé en même temps sur le mur. Mais bon, avec plus d'argent, on le fera. Et plus de temps. Et du coup, on a une voix off. Et là, pour un peu le côté Big Brother, quoi. Ouais. On vous regarde. Qui donne un côté très oppressant. Voilà, on essaie de mobiliser aussi le spectateur, mais intellectuellement, dans son imaginaire. Enfin, voilà, qui ressorte aussi avec. Qui se fasse son histoire.
Après, je pense que par rapport à la place du public, notre volonté aussi, c'était de créer un spectacle qui ne répondait pas à tous les codes du théâtre classique.
Donc tu parles beaucoup de cette idée du public internaute. Quand même, je trouve une manière assez originale de traiter le public. Qu'est-ce que ça veut dire internaute ? Est-ce que le spectateur est vraiment internaute au sens où c'est quand même pas lui qui navigue comme il veut dans la pièce, de fait, puisque c'est quand même vous, la troupe, qui l'emmènerez là où vous avez envie de l'emmener. Comment vous articulez vraiment ça, finalement, public, internaute ?
Et bien, du coup, toute la réflexion s'est faite autour de ça. On s'est dit... L'internaute, le vrai internaute, monsieur Y, qui regarde le blog de machin ou machin, croit toujours qu'il a le choix.
De passer d'une vidéo à l'autre.
Voilà. Et en fait, on est parti de ce constat-là, on s'est dit, mais tiens, on va faire croire au public que ce soir, il a le choix. Du coup, il est un peu en roue libre aussi. C'est-à-dire qu'on l'accueille, on lui dit, ce soir, vous avez le droit de prendre des photos, de relayer l'information, d'être assez libre, finalement. Mais en fait, tout est contrôlé et il n'a pas le choix. Mais ça, il n'est pas censé le savoir.
D'accord.
C'est toute une...
Alors, public n'écoute pas cette interview parce qu'on vient de spoiler.
C'est ça. Mais en gros, et on l'a déjà testé puisqu'on était en sortie de résidence il y a quelques temps à la MJC Mon Plaisir, où on a pu tester ça et on a accueilli le public. Donc finalement, le public était plus gêné parce qu'il ne s'attendait pas à ce qu'au théâtre, on lui laisse cette liberté-là de nous prendre en photo, de nous parler, de...
Il n'y aura pas d'annonce au début du spectacle pour dire d'éteindre son téléphone, du coup, j'imagine.
Ah non, voilà. Au contraire, en fait. On aimerait que le public nous prenne en photo régulièrement. Et sa place est centrale. Et il a sa place, en fait, dans ce théâtre. On joue pour lui, on joue avec lui et on fait quelque chose ensemble, en fait. Et on voudrait qu'il ressorte en se disant... Un peu culpabilisé, quoi, peut-être, de se dire... Mais c'est moi, enfin, c'est parce que en fait, je donne un regard à ces gens-là sur Internet qu'ils existent aussi. Donc je suis responsable et on veut vraiment ramener le public au théâtre aussi. C'est une volonté de jouer pour tous, de jouer parce que, il faut le dire, moi qui vais beaucoup au théâtre, il n'y a plus beaucoup de jeunes, à part des jeunes comédiens. Des jeunes bobos, ouais, et ça reste très élitiste. Et nous, on veut jouer pour les gens, en fait, parce que le théâtre, c'est ça.
Et alors, une question un peu pratique sur ce côté faire participer le public. Pour avoir déjà vu des mises en scène qui essayent de faire ça, je sais que ça peut être un peu difficile parce qu'en tant que public, on n'est tellement pas habitué à devoir prendre part au spectacle. C'est un peu compliqué parfois de mobiliser les gens. Est-ce que c'est assez facile ? Est-ce que c'est difficile ?
Et ben, justement, on a très peur d'avoir un public assez réticent. J'ai pas envie de révéler le spectacle parce que ça serait dommage, mais...
Surtout qu'on va aller le voir.
Voilà. Donc on a une petite surprise au début qui fait que le public doit se sentir concerné quand même. En tout cas, il est tout le temps mis en lumière, donc il est à notre place aussi. Enfin, je veux dire, on a la même place. Alors du coup, ce n'est pas un public acteur, quoi. Personne ne montera sur scène et on leur demandera de faire une impro ou non. Enfin non.
Non.
Restez.
Pas de panique.
Voilà, pas de panique. Voilà. C'est là toute l'idée du choix où on lui fait croire qu'il a le choix, mais en fait il a pas le choix puisque nous comédiens on a fait une trame et tout est maîtrisé, contrôlé et finalement ça ne doit pas déraper.
Non là, et puis il y a beaucoup de choses qui se posent comme question. Après c'est plus un rapport de public comédien. Comment on joue vraiment avec un public qui pour le coup à tout moment peut faire dériver un spectacle en fait. Mais bon, ça sera un petit peu plus tard, je pense.
Ouais, quand on aura plus de bouteilles.
Plus de bouteilles
mais
ouais.
On le fera. C'est juste qu'on voudrait qu'ils soient vivants, mais qu'ils se sentent concernés. Et puis nous, on veut les voir dans les yeux en fait quand on joue, parce qu'on veut s'adresser à eux directement.
D'accord.
Est-ce que peut-être tu peux nous parler un peu plus maintenant du plateau? Alors, qu'est-ce qu'on y verra au niveau des décors, des accessoires, ce
genre
de choses?
Tu nous as dit ce qu'on n'y verrait pas, on sait qu'il n'y aura pas de vidéo, mais du coup, qu'est-ce qu'on verra?
Eh bien, nous, on a une contrainte qui n'est pas des moindres, c'est la contrainte budgétaire, puisqu'on n'a pas de budget. Alors du coup, on a fait un petit truc de bric et de broc. On a la chance de jouer à Cantor, qui est un théâtre superbe, qui a beaucoup de moyens et qui nous a beaucoup aidé à réfléchir, en tout cas, à comment on pouvait faire. Du coup, on utilise des choses très, très simples. On a fabriqué des choses en bois de palette. Donc, on a une scène sur une scène et on aura des coulisses. Avec une cabine, des cubes et un pôle maquillage, enfin voilà, comme ça pourrait avoir lieu dans des studios où, voilà, on a recréé un musée. Alors j'ai envie de dire, on a mis le paquet plutôt plus sur le musée dans le hall. Par contre, on travaille avec une fille qui s'appelle Clara, qui nous fait de la création lumière. L'important, c'est plutôt les lumières et de créer des ambiances grâce aux lumières.
Ok. Alors, du coup, après toutes ces questions un peu sur le spectacle, j'aimerais bien revenir un peu sur la troupe aussi. Est-ce que tu peux nous présenter ce collectif? Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés?
Eh bien, on s'appelle le collectif IL, I-2-L-E-S.
Ouais, alors j'ai une question là-dessus aussi, parce que c'est un pronom épicène au fond. Donc,
c'est ça.
Pour les auditeurs qui ne sauraient pas, un pronom épicène, c'est un pronom inclusif. Plutôt que de dire IL et elle, on dit IL, donc I-2-L-E-S. Donc du coup c'est un peu féministe ça. Du coup, qu'est-ce que tu peux nous en dire?
Plus dans l'ordre, on s'est rencontrés il y a un an à l'école Premier Acte, à la classe apprenti comédien.
On est tous issus de la même formation, donc c'est plus simple pour travailler. On parle le même langage, donc ça c'est cool.
Et on avait tous des niveaux très différents. Bref, on a passé une super année. On a passé les concours des grandes écoles. Moi, j'ai 25 ans, plusieurs ont 25 ans et plus dans le collectif. Ça n'a pas marché. Ras-le-bol d'être jeté partout, disons, de ne pas réussir à faire notre place. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? J'ai fait appel à 5 personnes au début. Mmh. Une est partie entre-temps, mais on s'est dit, on va créer quelque chose, parce qu'on en a ras-le-bol aussi d'être jeté de partout. On va s'emparer d'un truc et on va faire aussi, on en a marre de s'entendre dicter aussi de la manière dont on doit voir le théâtre. Et à la base vraiment, je leur ai dit, j'ai envie de travailler sur les liaisons dangereuses.
D'accord.
Du coup, c'est parti de là. Ouais, rien à voir.
Pour le coup.
C'est parti de là. On s'est dit, on va travailler sur les liaisons dangereuses. Alors, mais.
Que s'est-il passé?
C'est ça.
Ouais. Il reste peut-être le MAL mal, tu vois, mais.
Et ben, finalement, tout n'est pas si loin parce que on s'est dit, bon, on va bosser sur les liaisons dangereuses, mais je voudrais qu'on reprenne ça et qu'on le rende vraiment rock'n'roll, qu'on réécrive tout. Je voulais vraiment qu'on écrive un texte, qu'on fasse une création de A à Z, en fait, pour qu'on se rende compte. On est parti de là. Alors, on voulait parler de l'émancipation des femmes. Qu'est-ce que c'était que le rapport homme-femme, qu'est-ce que c'était aussi que le rapport à l'image, qu'il fallait être bien calibré, mince, machin et tout. Puis on s'est dit, ça part dans tous les sens. On a Cathy Bouvard qui nous a aidés, elle nous a dit, il faut resserrer le propos, ça va pas parler d'un sujet, vous voulez parler de votre jeunesse, vous voulez parler de ça, allez-y. Et je pense que l'image est une bonne direction. Et on s'est dit, ok, on va partir là-dessus. Alors on oublie les liaisons, mais on a gardé finalement les 5 personnages, les 3 personnages centraux qui sont mâles, donc inspirés de très loin de Merteuil, Valmont et Cécile. Après, on a lu toutes les œuvres de Ronan Chesneau, qui a beaucoup parlé de la jeunesse il y a 10 ans, qui est un auteur vraiment formidable. Et moi, j'ai eu la chance de le rencontrer. Enfin, on s'est écrit beaucoup de mails. Il a écrit sur justement cette colère de la jeunesse, comment s'emparer de la place, comment on s'est inspiré de son écriture, comment elle écrivait, sa manière d'écrire. Puis voilà, on est parti là-dessus. Et donc, alors, trouver un nom, il faut savoir, c'est super compliqué. Ouais. Parce qu'on était 6 à la base, 4 filles, 2 garçons. On s'est dit, comment on fait? Qu'est-ce qu'on veut représenter? Vu qu'on n'avait pas encore commencé le projet, qu'on était sur les liaisons dangereuses, plus ou moins, on ne savait pas trop. Bon, on va parler de quoi? Quelles sont nos valeurs? Et en même temps, on voulait parler de quelque chose de générique, puisqu'on n'espère pas faire qu'une création. Alors, comment trouver un nom qui englobe tout ça? Et puis, Élise nous a proposé « il ». Et on s'est dit, on a cherché la définition qui veut dire « collectif mixte ». Et on s'est dit, bah oui, En fait, c'est génial.
C'est nous.
C'est ça. Et du coup, on a décidé de s'appeler IL, Collectif Théâtral Mixte. Et puis, ça nous représente bien quelque chose aussi de pas sexué. Enfin, le sexe compte pas, en tout cas, dans ce groupe. En fait, on est 5 amis avant tout, 5 personnes qui ont envie de travailler ensemble. Et nos valeurs, elles sont là.
Du coup, une question peut-être qu'on n'a pas trop abordée. Comment se répartissent les rôles au sein de la troupe ? J'ai vu qu'il n'y avait pas de metteurs en scène, ni de metteurs en scène. Donc, qui assume ce rôle et qui a écrit le texte ?
Alors ça, le problème du collectif, c'est qu'il n'y a pas vraiment de leader. Puis en fait, on s'est rendu compte au fil du travail qu'on avait besoin de quelqu'un qui tranche. Tout le monde discute, tout le monde a son mot à dire. Et puis, à la fin, en tout cas, on essaie d'écouter tout le monde. J'essaie d'écouter tout le monde et de trouver le compromis, le consensus, même si parfois c'est compliqué que tout le monde soit content. Mais en tout cas, oui, les autres m'ont fait confiance. Il y a sur ce projet quand même un leader et on est obligé quand même. Même si le travail se fait collectivement et qu'on est plutôt d'accord, hein, on accepte bien les propositions des uns et des autres, on avance vraiment dans une lignée commune quand même. Et puis on a une confiance entre nous et une liberté de se dire non, j'aime pas ce que tu fais, c'est nul, ou j'aime pas du tout, je comprends pas. Voilà.
Après, oui, il y a forcément des leaders qui se dégagent à des moments différents en fait. On va avoir des leaders qui se dégagent sur la fin du projet, il y en a qui ont tiré les choses tout de suite, dès le début, pour écrire, pour mettre des idées sur un bout de papier.
Oui, c'est ça, c'est même au-delà de leaders, c'est des initiateurs d'idées. Mmh. Et on l'a tous été à un moment, en fait.
Et... Oui, c'est conçu comme fluide, et ça peut changer complètement pour un spectacle prochain, du coup, j'imagine.
Et c'est ça qui nous rassemble, c'est, je crois qu'on a tous un univers à peu près commun de ce qu'on veut faire du théâtre, maintenant. Mmh. Aujourd'hui, ça fait mal hein, d'entendre... qu'il n'y a plus personne qui va au théâtre.
Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment toucher tout le monde, jeune, moins jeune, plus vieux, et voilà.
Et du coup, la pièce a été jouée à la MJC Mon Plaisir, maintenant elle est jouée en Cantor. Est-ce que vous aimeriez la jouer ailleurs après ? Peut-être même que c'est déjà prévu ?
Eh ben, c'est prévu qu'on ait quelques petites dates en festival.
On est programmé normalement pour les Artémiades au mois de mai, le...
Alors, qu'est-ce que c'est ?
Alors, c'est un festival avec Lyon 1, il me semble. J'ai assez peu d'informations.
Et on a les subsistances pendant, pareil, une semaine où on va essayer de montrer quelque chose à la fin. Là, on a une salle à disposition pendant une semaine avec des moyens techniques, des gens qui seront là aussi et des professionnels pour aiguiser ce travail et puis nous donner un œil... qui sera le bienvenu.
En fait, on vient de nulle part aussi, on se fait un peu tout seul, et le plus dur, c'est de rentrer dans le réseau et d'être programmé. Aussi, ce qu'il faut dire et ce qui nous fait peur, c'est cette première création. On ne sait pas ce qu'elle vaut, on a très peur de montrer notre travail aussi, et c'est très compliqué pour nous. Est-ce qu'on appelle les programmateurs ? On ne les appelle pas ? Est-ce qu'on a peur de leurs critiques ? Est-ce qu'on prend en compte ? Le premier projet, c'est sûrement, j'ai un de mes profs, un de mes mentors qui m'a dit ça il n'y a pas très longtemps, il s'appelle Sarkis, qui m'a dit « le premier projet, c'est le plus important ». Et je crois qu'il a raison parce qu'on annonce quelque chose, on annonce une ligne directrice. Donc on espère vraiment, vraiment que ça va tourner, on espère intéresser des gens. Mais on le fait avec nos moyens, avec nos mots. Peut-être qu'on est un peu gauche pour présenter le truc, mais... Ouais, on se fait tout seul. Alors là aussi, pour la diffusion, on se fait tout seul. Et donc,
je pense que c'est un spectacle qu'on peut appeler de vivant par tous ses aspects. C'est-à-dire pas seulement parce que c'est un spectacle vivant avec des comédiens sur scène qui ont un rapport direct avec un public, mais parce qu'il va grandir en fonction de tous les paramètres autour. Je pense qu'il sera jamais le même en fonction de ce qui se présente à lui.
On fait comme on peut et on espère que des gens vont nous faire confiance, en tout cas.
D'accord, bah franchement, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Et du coup, merci d'avoir répondu à nos questions. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, pour cette seconde partie d'émission, on retrouve maintenant Anna. Bonjour.
Bonjour.
Et donc, tu vas nous parler d'un spectacle qui s'appelle « Ceux qui nous regardent ». Et je t'écoute.
Au TNG, théâtre nouvelle génération de Lyon, Maria Marzuki a présenté 3 soirs d'affilée son dernier spectacle « Ceux qui nous regardent » le 17, 18, 19 février. Ancienne élève de l'ENS de Saint-Cloud en philosophie, elle a passé à l'agrégation de philosophie tout en suivant des cours d'art dramatique avant de comprendre qu'elle était davantage intéressée par la mise en scène plutôt que par le jeu d'acteur. Elle tenait à monter des textes d'auteurs vivants inclassables à la marge d'un nombre de catégories littéraires identifiées. Son travail est ainsi le fruit à chaque fois d'une longue réflexion et d'une collaboration tant avec les auteurs qu'avec les acteurs. Son théâtre est en quelque sorte une exploration de l'intime. C'est ce qu'on voit dans cette pièce qui s'ouvre par une représentation des archives familiales de Myriam Marzuki où elle nous montre notamment sa grand-mère du côté de son père et la grand-mère du côté de sa mère, l'une ukrainienne, l'autre tunisienne, représentés tous les deux avec un voile pour nous montrer en quelque sorte que le voile dépasse les cultures et les frontières et n'est pas simplement un problème de la société actuelle et de la France aujourd'hui. Donc du coup, son théâtre devient une exploration de l'intime qui invite les spectateurs à entrer et pénétrer au plus profond de son intimité tout en essayant de les pousser à trouver au sein de cette intimité quelque chose de bien plus général et d'explorer ainsi des problèmes vraiment transversaux et communs à la société tout entière. Donc du coup, elle plonge ainsi littéralement le spectateur dans son monde et la parole intime devient une clé d'entrée dans cette question compliquée qu'est le voile. Pour comprendre son spectacle, il faut remonter en fait à l'origine historique du voile. Dès 1989, on aborde pour la première fois cette question avec l'affaire de Cré. En 2004, la question devient centrale avec Jacques Chirac qui décide d'en faire un débat national. Et c'est à ce moment-là que commence une forte agitation médiatique qui accompagne des témoignages et des auditions autour du voile et pour la première fois se pose la question du port du voile en lieu public et dans les établissements scolaires. Et en 2010, la loi qui interdit le port du voile intégral au nom de la sécurité publique refait surgir le problème et repose encore une fois le problème du voile et de qui a le droit de le porter et où est-ce qu'on a le droit de le porter. En 2016, la question du burkini relance une fois de plus ce débat et c'est en ce sens que c'est une question qui a traversé toute l'actualité et toute la société française durant les dernières années et c'est une question que la France étrangement ne lâche absolument jamais. Et c'est ça qui a intéressé énormément Myriam Marzuki dans sa mise en scène, où elle voulait voir en quoi est-ce que cette question du voile est une question essentiellement française. Parce que notamment avec l'affaire du burkini, ce qui était intéressant, c'était la stupéfaction médiatique internationale autour de l'approche que les Français avaient du voile. Et donc c'est pour ça que dans la pièce, on voit aussi très souvent représenter des titres d'articles de journaux, des couvertures de magazines qui nous montrent en fait comment est-ce que les médias manipulent la société et le point de vue qu'on porte sur le voile en faisant une association très claire entre le voile et la radicalisation. Du coup, le voile, en fin de compte, devient un objet identifié, un objet qu'on identifie à une forme d'actualité politique et qu'on n'arrive plus à séparer de cette actualité politique-là. Et la question de Myriam Marzuki était comment est-ce que le théâtre peut devenir un outil dramaturgique susceptible de détourner cette question et de nous montrer le voile sous toutes ses formes pour nous montrer que le voile, finalement, n'est pas que cela. Et que dans le voile, nous, on ne peut voir que cette forme de radicalisation et que la représentation d'une femme qui est oppressée par la religion, qui est oppressée par un régime politique, alors qu'en fait, derrière le voile, il y a énormément de questions, énormément de représentations qu'on finit par oublier. Elle s'interroge aussi sur la question de qu'est-ce qu'une femme émancipée. Par exemple, dans la pièce, il y a toute une scène où l'actrice principale se dénude et se met à chanter sous une musique rock de « Est-ce que là, maintenant, je suis assez émancipée pour vous ? Est-ce que là, si je me mets à faire des pauses ouvertement sexuelles, je suis assez émancipée ? Est-ce que là, j'ai l'air d'être une femme heureuse ?» Et effectivement, on se rend compte de plus en plus que la frontière et tous les arguments qu'on porte contre le voile peut-être ne tiennent pas. Et dans cette pièce, on voit notamment représenter énormément d'images d'archives, des discours d'hommes politiques dans les pays musulmans, des discours d'hommes politiques en France. Il y a des passages de la Bible qui sont lus autour du voile. Et finalement, on a l'impression qu'on fait face à un contenu extrêmement didactique où on nous présente différents points de vue sur le voile clairement formulés. Mais en fin de compte, ces points de vue sont tellement différents, ils divergent tant les uns des autres, qu'on se retrouve à ne plus savoir ce qu'est le voile, alors même qu'on n'a pas cessé de nous dire depuis le début de la pièce de ce que c'était. Et c'est pour ça que la conclusion de la pièce, quand l'une des actrices finit juste par s'énerver en disant mais alors c'est quoi le voile, j'en peux plus, et elle fait face à juste à la réponse du régisseur son qui lui dit non mais c'est ambigu. Et la pièce s'arrête là-dessus. L'actrice renchérit en disant mais ça fait une heure et demie qu'on discute de ça et on peut pas juste conclure que c'est ambigu. Et c'est la conclusion est là. Et c'est là que le théâtre devient intéressant et devient véritablement un outil au service de la société, au service d'une réflexion, puisque en fin de compte, il sert véritablement à déconstruire l'image qu'on pourrait avoir du voile. Et en fin de compte, en fait, ce qui est intéressant avec cette pièce, c'est que la question ne devient même plus ce qu'est le voile, mais comment est-ce qu'on regarde ce voile. Et c'est toute une réflexion du théâtre sur lui-même, sur la manière dont il présente l'objet et la manière dont il montre l'objet au spectateur, et le spectateur perçoit cet objet-là. On voit en fait que, du coup, grâce à un sujet aussi actuel qui touche autant de monde que le voile, on peut dévoiler toute une sorte de représentation parfaitement inattendue autour de l'aura d'un objet. Et finalement, la pièce de théâtre devient ce que Maria Marzucchi voulait véritablement montrer dans cette pièce, une sorte de terrain de différents récits possibles, de récits sensibles qui ne prennent jamais véritablement sens sur scène et qui ne sont jamais menés jusqu'au bout, mais qui sont ébauchés. Et en cela, le théâtre ne devient plus simplement une sorte de réflexion, mais véritablement une traversée des imaginaires.
Chers auditeurs, chères auditrices, il est temps de refermer ce numéro d'En Spectateur. Merci de l'avoir suivi. Nous espérons vous avoir donné envie de voir le spectacle Le Musée du Moi. Nous vous rappelons qu'il sera joué du 2 au 4 mars à 20h en Théâtre Cantor. Place disponible auprès de notre partenaire En Scène. Et c'est une création proposée par le collectif Il. Merci à vous d'être venus jusqu'au studio.
Merci également à Anna pour sa critique éclairée. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires si le cœur vous en dit. À la régie, on remercie Nicolas.
Merci Nicolas.
Et donc, dans tous les cas, chers auditeurs, chères auditrices, nous vous retrouvons la semaine prochaine pour les retours critiques sur le Musée du Moi. J'en profite pour vous annoncer également que le CID passe en ce moment au TNP de Villeurbanne, et ce jusqu'au 11 mars. Une pièce de Corneille, Vive Corneille, mise en scène par Yves Bonnen. Et si vous rêvez de me croiser, chers auditeurs, chères auditrices, sachez que j'y serai le vendredi 3 mars et que je vous proposerai une chronique sur cette pièce la semaine prochaine.
C'est noté Marie. À bientôt, et d'ici là, surtout n'oubliez pas d'aller au théâtre, à l'opéra ou au ballet.
Bref, n'oubliez pas de vivre en spectateur.